Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est le roman du père, de la fille et de la mer ou l'océan, qui sépare une petite fille de 5 ans de sa mère, de sa maman, qui habite sur une île pas très éloignée et pourtant inaccessible parce que le bateau ne viendra pas. Au cœur du confinement de 2020, le père et la fille vont donc se retrouver isolés dans un hôtel sur la côte. Et à travers cette situation singulière, Julien Decoing explore avec une sensibilité et une tendresse infinie l'une des plus belles aventures de l'homme d'aujourd'hui, la paternité. Temps calme, pleine tempête, son quatrième roman est paru aux éditions du Seuil et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Julien Decoing.
Bonjour Jean-François.
Il y a deux personnages principaux dans ce livre, ces deux silhouettes que l'on découvre sur l'illustration de couverture, ce père et sa fille, dessinés par Mathieu Persan qui regarde un ferry s'éloigner vers l'horizon. Le père tient sa fille par la main. Alors je ne sais pas si vous avez eu votre mot à dire sur l'illustration de couverture, en général c'est le choix de l'éditeur, mais vous qui êtes aussi un homme d'image, un réalisateur, vous travaillez dans le cinéma, cette scène-là c'est une scène de cinéma.
Oui, tout à fait. J'ai pas eu mon mot à dire, à part remercier Bernard Comment, qui est à l'initiative de cette couverture que je trouve très belle, qui correspond au scénario, mais non, au roman et à l'histoire. Et c'est important de voir deux personnes comme ça qui regardent au loin, qui regardent leur avenir, alors là un petit peu inaccessible, et qui vont essayer de le rejoindre. Et en effet, c'est assez cinématographique le fait d'être en silhouette comme ça, avec ces deux personnages un petit peu en amorce.
Et quand on ouvre le roman, alors on ne connaît pas le nom de ces deux personnages, dont la silhouette se détache sur la couverture dans la pénombre, mais dès le premier paragraphe, on comprend tout de suite que le père est le narrateur, et qu'il s'adresse à sa fille, dont on apprend plus tard qu'elle a 5 ans. Nous sommes au tout début du livre, à la page 11, dans une scène préliminaire. Si on était au cinéma, on appellerait ça un pré-générique.
De ton tout petit long étalé sur la banquette du taxi qui traverse Paris, tu dors dans mes bras, tes baskets rouges posées sur les sièges. Tu ne devrais pas, mais je ne dis rien, pour ne pas te réveiller. Tu n'es pas attaché. Mes bras te protègent, et moi, ce qui me protège, c'est la carrosserie, et la confiance en un conducteur que je ne connais pas. Faut-il que je croie aussi en la probabilité que ce samedi soir, à 1h du matin, on ne croise la route d'aucun chauffeur ivre-mort ? Je caresse tes cheveux et ton visage, tes lèvres entrouvertes. Tes poumons qui gonflent ton corps écartent mes bras de quelques millimètres. Ton souffle siffle.
Elle dort. La scène est banale et pourtant elle est vraiment très émouvante dès le départ, sous votre plume Julien Decoing. Un enfant qui dort, c'est un spectacle extraordinaire.
Oui, c'est un spectacle extraordinaire et auquel on est souvent confronté malgré nous et qui nous échappe aussi parce que un enfant qui dort, il y a cet apaisement et en même temps il y a ce côté aussi forcément tumultueux de ses rêves, de ses angoisses ou au contraire du peu de certitude qu'elle a, qui est en général la confiance qu'elle a en ses parents, ou en tout cas en les gens qui sont autour. Et il y a aussi cette faculté chez l'enfant qui est assez incroyable, qu'on perd rapidement en étant adulte, qui est cet abandon dans le monde extérieur et cette capacité à s'endormir à peu près n'importe où, n'importe quand, juste quand la fatigue pointe le bout de son nez. Et c'est assez joli, un enfant qui dort, il y a une sensation d'apaisement qui est assez rassurante et en même temps un peu vertigineuse.
Alors je le disais, vous êtes un homme de mots et un homme d'image, et vous commencez le roman par une image, précisément. Donc ce père qui regarde sa fille avec toute la tendresse dont il est capable. C'est aussi un père qui s'adresse directement à elle, en la tutoyant. Dès le départ, vous saviez que ce pronom « tu » allait prendre une place importante dans votre écriture ?
Oui, c'est vraiment je dirais au-delà de la volonté, la nécessité que j'ai eue à écrire ce livre. C'est-à-dire que ce n'est pas une lettre, parce que c'est un roman, mais c'est vraiment à l'adresse de mes deux filles. Voilà, j'ai eu besoin de l'écrire à un moment donné de ma vie, et donc le meilleur moyen, c'était de, sans artifice, au-delà de la forme quand même romanesque, c'était de m'adresser à elle.
Et c'est une vraie contrainte d'écriture ?
C'est une contrainte d'écriture. Oui, ça a été une contrainte à un moment donné, parce qu'au début, c'est très facile d'écrire à quelqu'un. Et puis en fait, au bout d'un moment, on a quand même besoin de certains ressorts. Et on a besoin de faire appel à la fiction, on a besoin de faire appel à une structure, à une rigueur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le naturel de, la, de l'adresse à la deuxième personne est difficile à retrouver. Ou en tout cas, c'est une contrainte. Ouais.
Alors le corollaire du pronom « tu », le compagnon naturel de la deuxième personne du singulier, c'est évidemment la première personne, c'est donc le pronom « je ». Et d'un paragraphe à l'autre, en fait, on balance Julien Decaux entre les deux, ce qui fait que le lecteur, même inconsciemment, est vraiment souvent sans s'en rendre compte, et en même temps au plus près des deux personnages, alternativement et en même temps. Et ces deux personnages, ils ont un but, rejoindre une femme, la mère de la petite fille, qui se trouve donc sur une île, qu'ils doivent rejoindre en empruntant un ferry. Alors on sait dès le début que l'on se rend au bord de la mer, on sait qu'il y a une île au loin, mais on ne sait pas dans quelle région se passe le récit. Alors, au détour d'un paragraphe, j'ai vu qu'apparaissait une sucette caramel beurre salé. Donc, je me suis dit, tiens, on est en Bretagne, mais ce n'est pas sûr du tout. En fait, on ne connaît pas le lieu précis de l'action. On ne connaît pas les prénoms des personnages principaux. C'est une manière de dire que ce récit est un récit universel, une sorte de conte, une sorte de fable.
Oui, alors ce serait un peu prétentieux de tendre à l'universalité, mais... En fait, je me suis aperçu de quelque chose avec le Covid, cette expérience un peu universelle qu'on a eue tous ensemble. C'est que ça m'a permis de raconter ce livre de façon simple, en faisant appel justement à un mot que les gens n'aiment pas en général, parce que peut-être par snobisme, mais parlant je vais parler de cliché. Et en fait, le cliché permet de... C'est un petit contrat un peu tacite qu'on a avec le lecteur. C'est de lui dire, voilà, je vais te proposer un cliché. Donc, on ne va pas s'embarrasser de descriptions qui vont servir à raconter de façon anecdotique quelque chose, etc. Voilà, tu sais exactement, toi, lecteur, dans ta vie, ce qui s'est passé et ce dont je parle. Et ça permet une certaine fluidité, en tout cas, que je voulais. Et surtout, voilà, certains raccourcis, ça me permettait d'avoir un livre assez court. Et en fait, ce qui m'intéresse, pour revenir à cette expérience universelle de Covid, c'était pas du tout de parler du Covid ni du confinement, mais par exemple, quand vous prenez un livre comme La Route de McCarthy, où c'est aussi un père avec son enfant, il a besoin d'enrober tout ça de façon évidemment très brillante et savoureuse de monde post-apocalyptique, de voilà, de toute une dramaturgie et de tout un contexte. Et moi, en fait, je me suis aperçu que en 2020, à partir de juillet 2020, je pouvais me passer de tout ce contexte-là et en fait de raconter simplement un père et sa fille dans un huis clos, dans une chambre d'hôtel. Et je savais que personne n'allait me poser de questions à me dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas crédible, mais tu racontes n'importe quoi. Et donc voilà, tout ça me permettait d'être assez court et d'éluder le prénom, les noms des personnages, les lieux et voilà, de compter sur le vécu du lecteur pour faire le cheminement avec moi.
Nous sommes à présent à la page 30 de ce roman.
La fin du monde, c'est comme le grand méchant loup. Ça n'existe pas. Tu t'y connais en menace et en grand prédateur, nourri à ça, allaité depuis ton enfance à leurs terrifiantes mamelles, bien pratique pour vous apprendre à vous méfier et à ne pas vous jeter dans la gueule du mal. Tant pis pour les loups, les vrais. J'en ai vu, moi, des loups. Je t'ai raconté comme ils semblaient avoir peur de moi, comme ils bougeaient pour m'étudier, m'analyser, m'appréhender, comme ils étaient plus intelligents que moi, plus fins que moi, plus beaux que moi.
Et quelques lignes plus loin, page 31.
Il y a trois regards dont je me souviendrai. Celui du loup, fin et méfiant, qui m'a regardé comme un égal. Celui du lion, bête et confiant, qui m'a regardé comme un moins que rien. Et le tien, simple et aimant, qui m'a regardé comme un tout, comme si j'étais une merveille, un miracle, ou même un dieu. C'est extrêmement intimidant, cette responsabilité que tu me mets sur les épaules, ma petite fille. Quand tu me regardes, je ne peux pas être à cette hauteur. Je tremble. C'est toi mon plus grand prédateur. Ce que je redoute, là, tout de suite, ce ne sont pas les lions, ni les loups, mais ton regard lorsqu'on aura manqué ce bateau, le dernier de la journée, lorsqu'il faudra trouver où dormir ce soir et attendre encore une nuit de plus, lorsqu'il faudra ne pas voir ta maman et faire durer le jeu jusqu'à ce qu'il perde sa saveur, jusqu'à ce que ça ne marche plus et que la réalité nous rattrape, lorsque je t'aurai déçu.
lorsque je t'aurai déçu. Elle est extrêmement touchante, elle est extrêmement violente aussi, je trouve, la dernière phrase de ce paragraphe, Julien Decoin, qui est écrite non pas au conditionnel, mais au futur. Hein. Donc, il sait qu'il va la décevoir, et elle résonne bien au-delà du suspense que vous installez dans ce chapitre autour de la question de savoir s'ils vont rater ou pas le bateau. En fait, la peur de décevoir, on se dit que pour ce père, c'est presque une fatalité.
Oui, c'est un peu l'inéluctable, malheureusement. Enfin, malheureusement non, parce que c'est le sens de la vie aussi, sans rentrer dans des histoires d'Oedipe, etc., de Freud. De toute façon, on sait pertinemment, en étant parents, que les enfants, à un moment donné, vont devoir faire leur chemin. Et on vit dans cette... non pas dans cette crainte, mais on sait que ça va arriver. Alors, c'est un peu comme la fin du monde, c'est un peu comme on va tous mourir. C'est, voilà, à un moment donné... L'enfant va devoir voler un peu de ses propres ailes, et pour ça, voilà, peut-être claquer une porte à un moment donné, ou en tout cas être déçu et regarder un petit peu différemment. Mais je crois que c'est le jeu, et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. C'est pour dire à mes filles, voilà, je vous décevrai forcément si ça n'est pas déjà arrivé, et c'est la vie. C'est pas pour autant que je vous aime moins ou que vous m'aimez moins. Et voilà, ça doit dépasser ça.
Être père, on se dit aussi que c'est une pression énorme, d'autant que le narrateur n'a pas vraiment confiance en lui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors, je ne sais pas. Je comprends qu'on puisse ressentir ça. Je ne me suis pas posé la question de cette confiance en lui. Je pense qu'il a évidemment des forces et il a évidemment des faiblesses. Et il a cette capacité, en tout cas, à s'interroger grâce à cette petite fille qui, elle, en revanche, a confiance en lui. Et en fait, s'il était tout seul, la question de la confiance en lui ne se poserait pas, puisqu'il arriverait probablement à rejoindre sa femme, ou il ferait autre chose, ou voilà, enfin, en tout cas, il ne s'inquiéterait pas, donc il n'aurait pas ce problème, il ne serait pas face à cette problématique. Et avec cette petite fille, il est face, en effet, à ce mur, en tout cas à cet océan. Mais paradoxalement, elle lui apporte la confiance qu'elle lui enlève par sa présence.
Alors, on ne sait pas grand-chose hein, de ce père, sinon qu'il travaille dans le cinéma, tiens donc, et qu'il n'est pas sans défaut, donc il fume forcément trop, il boit parfois trop. Ce n'est visiblement pas un homme modèle. La relation avec la mère de sa fille, elle est aussi assez floue. Sont-ils séparés? Sont-ils divorcés? On n'en est pas vraiment sûr. En tout cas, on comprend que la fidélité n'a pas toujours été son fort, sauf pour sa fille. En témoigne à la page 20 ce paragraphe qui dit tout ou presque.
« Tu es la seule personne que je ne peux pas tromper, même tentée par d'autres lèvres, d'autres seins, d'autres fesses ou d'autres courbures d'esprit, séduit par un corps ou les mots d'une autre, dans un lit et des bras, ce n'est jamais toi qui seras remplacé, délaissé, oublié. On ne peut pas se quitter, je ne peux pas moins t'aimer, je ne peux pas ne plus t'aimer, c'est la seule chose dont je suis sûr, avec la mort qui m'attend. Tu es ma fille. »
Tu es ma fille. Quatre mots très simples, mais qui en disent long, je trouve tellement long. Quel est le mot le plus important entre les quatre? Tu es ma fille.
Ça, c'est une bonne question. Ai-je la réponse? Je ne sais pas. Je pense que c'est le... je ne sais pas. Je vais pas répondre à cette question.
Non, mais vous avez parfaitement le droit. Et je pense que chaque lecteur a peut-être sa propre interprétation. Ça peut être le « tu », en ce sens où tu comptes pour moi, tu es proche de moi, je t'adresse à toi et ce livre est pour toi. Il y a l'être, l'existence, la vie, le « ma », le possessif, tu es la mienne et pas celle d'un autre. Et puis la fille avec tout ce que ça transporte en termes de filiation, évidemment, et en termes de transmission aussi.
Oui, c'est sûr. Et aussi en termes de... Parce que c'est aussi le sens de ce passage-là. Au-delà de la fidélité, ce que je voulais interroger, c'est aussi la relation... d'un père avec une fille. C'est-à-dire que un père avec un fils, j'aurais pas forcément posé les mêmes questions, j'aurais pas parlé de cette histoire de fidélité ou en tout cas d'amour. Ce qui est très étrange, c'est de dire je t'aime à sa petite fille de 5 ans et de dire aussi je t'aime à sa femme qu'on embrasse sur la bouche, à qui on fait l'amour, etc. Et c'est le même mot. c'est le même genre, face à soi, mais c'est pas tout à fait le même, forcément, le même amour. Et ce qui m'intéressait, c'était d'interroger les deux amants, non pas de les comparer, mais il y a quelque chose qui nous lie à son enfant, qui dépasse l'amour qu'on peut avoir pour son conjoint. Et voilà, c'est pour ça que c'était intéressant que le père soit dans ce rapport de pas forcément d'infidélité, mais en tout cas de questionnement par rapport à son épouse, pour mettre évidemment en lumière l'amour infini et inéluctable et indestructible et imprescriptible qu'il a forcément pour sa fille.
Alors là, entendu, hein, Julien Decoin, dans tous les extraits qui sont passés depuis le début de cette émission, vos mots sont extrêmement touchants, beaux, souvent poétiques, et en même temps d'une très grande simplicité, d'une très grande limpidité, d'une très grande fluidité aussi. Et c'est comme ça dans toutes les scènes d'introspection du roman. Vous avez une écriture qui coule un peu comme de l'eau à travers les doigts, Julien Decoin. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore, mais elle est venue tout de suite, hein, quand j'ai lu pour la première fois votre roman. Et on se dit qu'écrire aussi simple, ça doit être rudement compliqué.
Ben merci pour le compliment. Évidemment, je suis sensible à la matière de l'eau entre mes doigts qui coule et qui, justement, m'échappe un peu. Donc, je dois quand même assumer la paternité de ce livre. Hein. C'est quand même moi qui l'ai écrit, mais... Surtout dans celui-ci, à l'écrire à la première et à la deuxième personne, l'écrire au présent, il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu, mais auquel j'ai tenu aussi, c'est-à-dire que je l'ai laissé m'échapper et ensuite je l'ai en effet beaucoup relu et je l'ai beaucoup simplifié, clarifié.
Oui. Quand vous écrivez, vous élaguez beaucoup, vous écrivez avec une gomme, on peut dire ça comme ça.
Exactement, oui. Oui, c'est important, c'est comme un peu dans le cinéma quand vous écrivez un scénario, c'est-à-dire que vous avez besoin d'écrire des dialogues pour donner le sens à la séquence et les émotions et les intentions au personnage. Et en fait, une fois que vous l'avez écrite, et même en la tournant, vous vous apercevez que en fait, les deux personnages, ils sont inscrits dans une ligne droite, dans une narration, et ils ont leurs émotions, et en fait, ils peuvent très bien ne rien dire. Et cet élagage est extrêmement jouissif. Une fois qu'on a passé le deuil de ce qu'on a écrit.
Et puis, il y a aussi une figure qui est présente à la fois dans la littérature et dans le cinéma, c'est l'ellipse. Il y a beaucoup d'ellipses à l'intérieur de ce roman. Et c'est aussi, ce sont aussi des éléments, les ellipses, qui permettent au lecteur d'imaginer, de laisser une place à l'imagination et donc de faire une partie du chemin aussi, du côté du père ou du côté de la fille.
Oui, c'est très important. Et là, je me base aussi... j'ai énormément de confiance et de respect en le lecteur, justement pour qu'il laisse libre cours à lui, à son imagination, à son expérience aussi, à ce qu'il a vécu, justement, pour combler ces ellipses qui me permettent de faire avancer l'histoire tout en restant dans ce huis clos et dans cette chambre d'hôtel.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent, c'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo, on a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu, on fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde se reverra.
On fait comme si la chanson que le confinement a inspirée à Calogero dans VMDN sur RFI, le confinement qui tombe donc sur vos deux personnages, Julien Decoing sur ce père et sa fille de 5 ans qui viennent de rater leur bateau. Alors évidemment, tout bascule, hein, les liaisons maritimes s'arrêtent, ils se retrouvent à l'isolement, à l'hôtel, avec interdiction de sortir, impossible évidemment donc de rejoindre la mère de la petite qui les attend au large sur une île. La première réaction, évidemment, c'est l'agacement, ils sont coincés. Et ensuite, très vite, arrive ce que nous avons tous, je pense, ressenti à ce moment-là, lorsque le premier confinement a débuté, sans crier gare, une certaine sidération.
Oui, en fait, il s'est quand même passé quelque chose avec ce confinement. C'est que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, donc je ne vais pas révéler un scoop là avec vous. Mais on s'est aperçu que ce qui ne pouvait pas arriver allait arriver. Et moi, je me souviens, j'étais en le moment où le confinement a été décrété et l'école fermée, etc. J'étais dans un avion qui allait à Montréal parce que j'allais tourner quelques jours pour des séquences d'hiver dans la neige, etc., qu'on ne pouvait pas reculer, qu'on ne pouvait pas annuler, etc. Donc j'étais dans l'avion et j'ai eu ce sentiment très étrange de partir un peu vers l'inconnu en laissant derrière moi mon pays, avec le président de la République qui venait d'annoncer la fermeture des écoles, ce qui est quand même inédit depuis probablement la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, j'allais vers cet inconnu dans un pays qui en plus ne voulait pas nous accueillir parce qu'à l'époque on venait d'Europe et puis ils avaient cette image tout de suite très raciste et la peur de l'étranger, de se dire le virus venait de Chine, il est passé par l'Europe, il va venir avec nous, il va venir avec les Européens en Amérique du Nord. Donc en plus on arrivait à Montréal avec certaines appréhensions. Et puis et une fois que j'ai été là-bas, on était en tournage, il a fallu envisager de nous faire rapatrier pour rentrer, parce que une fois qu'on était atterri, quelques jours plus tard, les aéroports fermés, ce qu'on pensait impossible. Et je me souviens avoir dit à Charlotte, mon épouse, et à mes filles, non mais ne vous inquiétez pas, évidemment que je vais rentrer, ça n'existe pas aujourd'hui en 2020 dans des pays civilisés et on n'est pas en état de guerre, les familles, je rentrerai. Et en fait, on est rentré quelques jours plus tard avec l'un quand même des derniers vols commerciaux, l'un des derniers vols Air France. Et voilà, il y a eu quand même cette petite appréhension de se dire c'est possible et ça peut arriver. Et voilà, tout de suite, ça nous a plongé, on a tous été plongés dans un environnement et dans une ambiance post-apocalyptique assez anxiogène. Et en même temps, il n'y avait pas. Et en même temps, c'était pas la guerre, c'était pas ce que nos grands-parents nous avaient raconté de traumatisme. Et donc, il y avait ce côté un petit peu suspendu de ce confinement.
Alors, ce confinement se passe donc pour vos deux personnages dans cet hôtel sur la côte. Et le père et la fille vont rencontrer un troisième personnage, la jeune responsable de l'hôtel. Un huis clos à deux, ça ne suffisait pas, Julien Decoing. Il fallait un troisième personnage susceptible de perturber un petit peu ce tête-à-tête entre le père et la fille.
Oui, là non plus, je ne vais rien vous apprendre. Il faut toujours un petit élément perturbateur.
Mais le confinement, c'est déjà un élément perturbateur. Hein. C'est, quand on rate son bateau, c'est un premier élément perturbateur. Le confinement, c'en est un deuxième. Et là, il fallait en plus rajouter un troisième.
Oui, parce que le confinement, ça peut durer longtemps. On l'a tous vécu. Et à un moment donné, on peut un petit peu s'ennuyer. Donc, il fallait quand même rajouter quelque chose. Et une fois de plus...
Quelqu'un, en l'occurrence.
Et quelqu'un. Ce personnage de Pamela me permettait de parler de cette relation amoureuse entre ce père et sa fille, et en même temps ce père et sa femme. Et ça permettait aussi d'introduire à un moment donné la faiblesse de l'homme et d'annoncer un petit peu cette déception et le fait que ce père, au-delà de ne pas réussir à rejoindre sa femme et à rendre sa mère à sa fille, en plus il va échouer avec une
on va pas trop en dire.
Bon, d'ailleurs c'est assez ellipsé.
Oui, pour le coup, absolument. Et puis, dernière conséquence du confinement, le temps change, on le disait, il y a évidemment cette promiscuité, cette interdiction de se déplacer. Et puis, votre narrateur regarde aussi différemment la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi beaucoup dans les villes. Beaucoup de gens ont ressenti ça au moment du confinement. Mais pour lui, ça va plus loin. Par exemple, page 65, il y a cette phrase absolument incroyable. Le regard d'un arbre, je ne l'avais jamais vu. Comment une phrase comme ça vous est-elle venue, Julien Decoux ?
Alors, je vous remercie d'en parler parce que c'est vrai que sur cette couverture et le titre et la quatrième, etc., ce qu'on sait du livre, on ne voit pas les arbres, alors qu'ils sont très présents dans le livre. Ils permettent au narrateur de s'échapper en racontant des histoires à sa petite fille, des histoires que lui-même a vécues avec les arbres. Il se trouve que j'ai moi-même été confronté à des rencontres avec des arbres ces dernières années et j'y étais particulièrement sensible pour plusieurs raisons, dont le confinement, mais aussi avant le confinement. Et cette confrontation au vivant m'a paru extrêmement forte et intense et avec la nécessité soudain de s'arrêter parce qu'on passe devant, on passe devant des arbres et on ne s'arrête pas. Et voilà, on a tous un souvenir avec un arbre dans une vie, je pense, parce qu'on fabrique des cabanes dedans, on s'abrite. Et puis, on a tous un arbre dans le jardin d'un grand-parent ou dans le sien. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut avoir lié une certaine affection pour cet arbre, pour ce végétal.
À quoi il ressemble le regard d'un arbre ? Le regard de votre arbre à vous, Julien Decoux ?
Le regard de mon arbre, il me regarde avec un peu de bienveillance qui s'apparente à un petit peu de pitié quand même, enfin de compassion, je dirais. Et je pense qu'il me regarde m'agiter et il se dit qu'il sera toujours là quand moi je serai plus là. Et alors je ne sais plus où j'avais lu ça ou si je l'avais imaginé, mais que à l'époque, quand même, quand les humains vivaient beaucoup moins longtemps, même, imaginons les hommes préhistoriques, c'est-à-dire que quand ils arrivaient au monde, un arbre était déjà là, et puis ensuite, toute la vie passait, et quand ils partaient, l'arbre était encore là. Et il y a forcément cette dimension un peu divine chez l'arbre, parce qu'il y a l'infini. Et un jour, il y a ma fille qui m'a posé cette question, et elle m'a dit, mais est-ce que les arbres arrêtent de pousser ? Et si un arbre n'arrêtait jamais de pousser ? Et un arbre, c'est finalement, si personne ne vient le couper, si la foudre ne s'abat pas dessus, si les petits coléoptères ne le dévorent pas, a priori, il a en lui l'infini. Ce que nous, êtres humains, fait de chair et de sang, nous n'avons pas.
Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne à brosse et liane, le cèdre du Liban et le vieux pin des Landes conçurent un vaste plan. Le vent porta l'affaire à travers les forêts. Les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les lignes et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libre de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient. Jamais de mémoire d'homme on entendit ce chant, mais dans le cœur des hommes il résonnait comme un printemps. Si près de Palestine et l'arbre de Judée ont mêlé leurs racines autour de l'olivier. Les arbres de la terre se sont tendus les mains par-delà les frontières, au-dessus des humains. Et la rose des vents échangeant les pollens a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène.
Yves Duteil, La légende des arbres sur RFI VMDN avec l'écrivain Julien Decoin pour son roman Tant calme, pleine tempête aux éditions du Seuil. Le père, on le disait, raconte à sa fille des histoires dont les arbres sont les héros de courts récits qui rythment le roman et qui en viennent à en constituer un des fils rouges. Être père, Julien Decoin, c'est savoir raconter des histoires.
Oui, oui, tout à fait. On est confronté à ça assez rapidement avec les enfants qui demandent et qui, même sans le demander, ont besoin d'histoires pour s'échapper comme ça et puis aussi pour grandir. Je pense que c'est une manière qu'on a de leur apprendre des choses, de leur inculquer des valeurs en lesquelles on croit. Et voilà, c'est l'un des langages qui vient tout de suite après le langage purement corporel, des sourires, des câlins. On a besoin de raconter des histoires.
Mais alors, à ce moment-là, être père et être écrivain, c'est un peu la même chose.
Oui, après, c'est un petit peu la même chose. Sauf que normalement, lorsqu'on est père, on a justement beaucoup d'histoires de livres pour jeunesse et d'autres écrivains qui en ont écrit et donc il nous suffirait de lire. Et le problème de mon narrateur, c'est qu'il n'a aucun livre pour enfants avec lui et que donc il doit inventer des histoires. Et il n'est pas si bon écrivain que ça, alors il se met à raconter des histoires qu'il a vécues lui. En prenant quand même cette thématique des arbres, parce qu'il voit que ça lui plaît à cette petite fille, les arbres. Et donc, il va lui raconter trois histoires d'arbres qu'il a rencontrées dans sa vie. Et d'ailleurs, alors j'espère que le lecteur les comprend un peu mieux, mais la petite fille a un peu du mal à comprendre où il veut en venir.
Oui, petit à petit, ça se construit au fil de la lecture. Alors, vous racontez, Julien Decoin, le père qui regarde sa fille, des mots d'inquiétude plein la tête et des mots d'amour plein le cœur. Vous racontez la fille qui pose parfois des questions bizarres, comme celle-ci, hein, au début du livre, la fillette qui demande à son père « Tu m'aimerais encore si je tuais quelqu'un ?» Il y a aussi les jeux, évidemment. Il y a un jeu qui consiste à échanger les rôles. Donc, le père prend le rôle de la fille et inversement. « Tu joues à moi et je joue à toi. Toi, tu vas voir comme c'est pénible. » Moi, je vais voir comme c'est bon. Ça, c'est le père, évidemment, qui parle. Alors, dans le texte, il y a des mots d'enfant que vous parsemez de ci, de là, comme le mot zizi. Il y a les expressions attendrissantes. Par exemple, lorsqu'elle dit à son père qu'il casse la nature. Je trouve cette expression absolument magnifique. Et puis, il y a cette autre phrase terrible, je m'ennuie, qui oblige évidemment les parents à réagir tout de suite. Enfin, il y a une scène absolument atroce, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, une scène atroce. Tous ceux qui ont déjà croisé un petit garçon ou une petite fille redoutent ce moment terrible, cette catastrophe internationale, un cataclysme intersidéral, quand l'enfant perd son doudou. Nous sommes à la page 58.
Mon papard ? Il est où mon papard ? On est assis sur le lit, le temps se fige. Plus encore qu'il ne l'était déjà. Il s'arrête vraiment pour se décomposer et se dilater dans l'espace, pour que je puisse apprécier chaque seconde, comme si un instant était véritablement composé d'images que l'on peut, à volonté, étudier l'une après l'autre. Prendre le temps de voir ce qui se décompose. Ici, un nouvel événement bien plus marquant qu'un bateau parti ou qu'une fin du monde, la fin de ton monde. Ton léopard ? Il est où ton léopard ? Mon Dieu, tu as perdu ta peluche. Je retourne la chambre au cas où on serait parti sans lui et qu'il serait resté au chaud, à nous attendre. Je la retourne alors que je sais pertinemment que non, il n'est pas resté là. Je le vois pourtant dans chaque recoin, à attendre que tu le prennes et que tu lui insuffles la vie, la voix, la vue. Il doit être là, il le faut, mais il n'y est pas parce qu'on ne l'a pas oublié en partant. Je le sais parce que jusque-là, j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais veillé à ne rien oublier et j'avais même réussi. Tu l'avais. J'ouvre la porte. Je regarde dans le couloir, dans l'ascenseur, et il devrait être là, à terre, comme un vulgaire morceau de chiffon, comme il est lorsque ce n'est pas toi qui le regarde. Il n'y a rien. On l'a fait tomber ce matin en allant au port. Quelques instants auront suffi. Il a glissé d'entre tes doigts sans que tu t'en aperçoives. Tu as pourtant bien dû sentir quelque chose. Tu pleures, plus encore, alors que je te demande de te souvenir de la dernière fois que tu l'as vu. Est-ce que tu es sûr que c'était dehors, ou ici, ou ailleurs ? Mais tu ne sais pas, tu ne sais plus, tu ne sais rien. Tu ne fais que pleurer. C'est important, c'est pas compliqué. La seule chose dont tu es responsable, une bête en peluche, une bête en peluche. J'ai l'impression de t'engueuler, mais c'est à moi que j'en veux. Je te crie dessus pour que tu me rassures, pour que tu me dises qu'il est là et que tu ne m'en veux pas. Mais non, tu ne dis rien, parce que tu ne sais pas, tu pleures. Je m'énerve. Tu penses que je suis contre toi, mais je suis contre moi. Je suis le seul responsable.
Alors là, Julien Decoin, on se dit, ça sent le vécu. Est-ce que vous êtes beaucoup inspiré de votre expérience personnelle de père pour écrire ce roman ?
Oui, en tout cas, à propos de ce léopard qu'on a en effet perdu dans la rue, oui. Et oui, je me suis évidemment énormément servi de mes filles pour écrire ce roman. Quand on assiste en direct à leur vie, à leur croissance, à leur bêtise, à leur crise de larmes, à leurs idioties aussi, à leurs bêtises. On se dit tout le temps, ça, il faudrait qu'on l'écrive, il faudrait le noter, etc. Parce qu'elles ont toujours une certaine magie dans la façon de vivre les choses. Et puis après, ça passe. Et souvent, on oublie la moitié de ce qui s'est passé. Et donc, je suis content d'avoir réussi à marquer un petit peu dans ce livre deux, trois événements qu'elles m'ont fait vivre, deux, trois choses qu'elles m'ont dites, et beaucoup plus encore qu'elles m'ont appris. Et voilà, c'était important pour moi de le marquer. Et donc, c'est pour ça que ce livre, évidemment, dépasse la fiction, même s'il y a une véritable mise en fiction. C'est un vrai rapport que j'ai avec mes filles et que je leur laisse. Et voilà, et ce léopard, en effet, on l'a vraiment perdu. Et c'était un peu vertigineux, le côté en même temps dérisoire d'une pauvre bête en peluche, hein, qui est quand même un amas de tissus et de mousse. Et en même temps, qui est tout pour un enfant. Et il faut le respecter, l'enfant. Et on ne peut pas simplement lui dire « Écoute, je m'en fous de ta peluche. » Ou « On en achètera une autre, ou t'en as plein d'autres. » Non, il faut aussi la respecter.
Alors, vous êtes donc un père, Julien Decoin. Il se trouve que vous avez un fils, et donc que vous avez un père. Vous aussi, et pas n'importe quel père, un père écrivain, Didier Decoin, prix Goncourt 77 pour John Lanfer, et actuel président de l'Académie Goncourt. Chez les Decoin, on est écrivain de père en fils, visiblement. Quel genre de père est-il, si je puis vous poser cette question ? Est-ce qu'il ressemble au père du roman ?
Eh bien, moi, vu de la position du fils, je dirais qu'il a l'air quand même beaucoup plus sûr de lui que le père du roman. C'est-à-dire que je le regarde, moi, avec le regard de ma fille, donc non pas comme un dieu, parce que j'ai grandi quand même, mais il y a forcément une forme d'admiration. Et même si je ressens parfois un petit peu ses faiblesses et poindre ses doutes, il a toujours la figure, évidemment, du père. C'est mon père, donc voilà, il y a cette distance et ce respect, forcément, et cette admiration. Et pour autant, il a été, et il est toujours d'ailleurs, un père très... un peu comme celui du roman, oui, très... très proche, très à l'écoute, et avec surtout ce qui est le propre des gens qui racontent les histoires et qui aiment les histoires, parce qu'avant tout, il aime les histoires. Il a ce côté très enfantin, et voilà, je pourrais l'écouter encore pendant des heures nous raconter des histoires.
C'est lui qui vous a transmis le plaisir des récits, le plaisir de lire, le plaisir d'écrire aussi ?
Il m'a transmis, avant de me transmettre le plaisir, parce que pour moi, l'écriture, c'est avant tout, avant d'être un plaisir, c'est un besoin. Je suis vraiment entré en littérature, pour reprendre l'expression un peu consacrée, parce que j'en avais besoin avec mon premier roman. Et donc, je ne dirais pas qu'il m'a appris le plaisir, mais en tout cas, il m'a appris la possibilité d'écrire. Et surtout, il m'a montré que c'était un travail. C'est-à-dire que mon père, il monte tous les jours dans son bureau, travailler. Et voilà, et aujourd'hui, à son grand âge, il a des problèmes de dos parce qu'il a travaillé durement à son établi, à sa table, quasiment tous les jours de sa vie. J'ai pas rarement passé des mercredis après-midi à jouer au foot avec lui ou des samedis ou des dimanches. Et voilà, parce qu'il travaillait, il écrivait. Et le soir, il nous racontait ce qu'il avait écrit et on vivait un petit peu avec ses personnages. Et donc, il m'a surtout appris qu'écrire était, au-delà d'un plaisir, un travail et donc une possibilité.
Et donc en partage, vous avez aussi l'amour du bateau, l'amour de la mer, qui joue un rôle majeur dans le roman. Votre précédent livre, d'ailleurs, Soudain le large, publié en 2017, a reçu le prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer. Alors je le disais en ouvrant cette émission, ce livre, c'est donc le livre du père, de la fille et de la mer. Et ce livre, vous l'avez dédié à deux filles, Suzanne et Elisabeth, dont on devine que ce sont les vôtres. Vous en avez parlé depuis le début de cette émission. Est-ce qu'elles ont lu ce roman, Suzanne et Elisabeth, Julien de Coin?
Non, elles l'ont pas lu, elles tournent autour.
Elles sont trop jeunes encore peut-être ou...
Non, je pense non. Que Elisabeth peut-être un peu, elle a 7 ans, et Suzanne, qui a 11 ans, non, serait tout à fait capable de le lire, puisqu'elle lit des livres beaucoup plus gros et beaucoup plus romanesques. C'est assez impressionnant, je pense que la dernière fois, je calculais, avec toutes ces histoires de séries, de livres qui font 500 pages chacun, elle a lu, je pense, plus de pages que moi. Mais non, elles tournent autour, elles le connaissent bien, elles connaissent les passages que je leur ai pris. Elles connaissent pas tout ce que j'y ai mis moi, mais elles le liront quand elles auront envie de le lire. Et voilà, c'est peut-être dans très longtemps, peut-être dans pas longtemps, mais en tout cas je leur laisse et elles en feront bon usage.
Et le jour où elles le liront, le jour où elles le refermeront, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles vous disent, Suzanne et Elisabeth?
J'aimerais que... C'est une bonne question une fois de plus... qui me touche tout particulièrement, donc je ne sais pas exactement ce que j'aimerais. Je ne me suis pas posé cette question. Je me suis posé la question de leur donner, je ne me suis pas posé la question de la réception. Voilà, j'aimerais qu'elles voient qu'il y a des failles, forcément, chez un père, qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, et surtout voilà les choses que j'aime et que j'aimerais leur dire. Et je pense que c'est entre les lignes qu'elles sauront lire.
Merci, merci beaucoup Julien de Coin. Sans calme, pleine tempête à découvrir aux éditions du Seuil.
On vient d'éteindre la lumière. Bébé succombe à son sommeil. Mais les joujoux très en colère dans leur placard tiennent conseil. Les joujoux font grève, ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous, le cheval n'a plus de selle et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant, il va voir comment on se défend. Le placard entr'ouvre sa porte, ça grince un peu et bien tant pis. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le tapis. Les joujoux discutent pour savoir comment ils vont préparer leur armement. Pour mener la lutte, un chef est nommé, c'est un vieil indien tout déplumé. Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel, le cheval déjà s'élance, le moment est solennel. Quittant leur cahute, ils forment les rangs, le mot d'ordre étant mort au tyran.
La révolte des joujoux, Enzo Enzo, dans VMDN sur RFI et les joujoux. Avec un X, hein. C'est comme les choux, les cailloux et les genoux, quand ils sont pas dans le placard, les joujoux, eh bien ils peuvent aussi s'installer dans un musée, en l'occurrence en région parisienne, le musée du jouet de Poissy dans les Yvelines, qui met à l'honneur tous les jouets en forme d'animaux de l'Antiquité à nos jours. On ne sait jamais, peut-être pas par, y a trouvé refuge. Notre reporter Emma Garbou Lorenzoni, elle n'a eu aucun mal à retomber en enfance.
Dans cette ancienne bâtisse du XIVe siècle rénovée au fin du musée, les visiteurs sont entourés de jouets. Tout est fait pour replonger dans l'imaginaire enfantin.
Il y avait une marionnette qui était faite avec des poils. Il y avait des jouets de ma maman qu'elle m'a donnés.
Quand j'étais petite, j'avais la même petite girafe qui est là-bas.
Des béliers à roulettes de l'Antiquité jusqu'au pet shop, en passant par les chevaux à bascule, la conservatrice du musée Marion Abadi a tenu à mettre les animaux à l'honneur.
C'est une exposition qui vise à montrer tous les jouets animaliers, en fait, tous les jouets qui ont été jouets et jeux, qui ont été inspirés par les animaux. Et c'est vrai que l'animal est très, très présent dans le jouet de l'enfant, et ça depuis très longtemps.
Comment vous avez fait pour rassembler autant de jouets?
On n'a pas tellement emprunté à l'extérieur, on a fait vraiment avec ce qu'on avait, si ce n'est un prêt très exceptionnel du musée du Louvre, qui nous a prêté des jouets qu'on n'avait pas, qui sont les jouets antiques, donc des jouets qui ont plus de 2000 ans.
L'exposition commence dans cette salle et la suite de la visite a l'air un peu labyrinthique, non?
Alors c'est un parcours en fait chronologique. Quand on a rénové le musée en 2019, on a souhaité présenter cette chronologie parce qu'il y a vraiment une histoire du jouet. C'est un peu labyrinthique, mais ça, je pense que ça fait partie du charme de la découverte du musée.
Donc d'escalier en escalier, on arrive.
Alors on est arrivé
dans cet endroit.
Dans une autre salle qui évoque vraiment notre collection, donc les jouets du 18e siècle, voire du 17e, puisqu'on a un jeu de loi qui est très ancien, qui date du 17e siècle. Donc là, on est arrivé au grenier. Donc c'est la partie qui traite en fait la première moitié du XXe siècle. Alors souvent, on fait commencer le XXe siècle en fait avec la Première Guerre mondiale. Alors on retrouve par exemple ici une planche de jeu qui s'appelle « Mes petits poussins deviendront coqs » et qui sont appelés à devenir des soldats.
En se baladant dans le musée, on croise des visiteurs plus étonnés les uns que les autres.
Quand on voit l'Antiquité par rapport à aujourd'hui, on voit que ça a complètement changé.
On part de jouets où avant, enfin, c'était un truc tout simple, fait de l'argile, ça bougeait la tête, ça bougeait les bras, t'étais content, ou maintenant t'as des poupées qui parlent.
On a vu un costume de chevalier et on a vu aussi un costume qui date de 1000 ans, je crois.
Bah non, bah non, quand même. Je crois, ça date du Moyen-Âge.
Déjà, on voit que les jouets, avant, c'était vraiment pour les riches, parce que c'est très bien fait, c'est très bien manufacturé, il y a beaucoup de détails, c'est presque pas des jouets, en fait, c'est tellement c'est beau.
Alors là, on a pris un grand escalier qui nous fait redescendre tout en bas et on se retrouve dans cette salle qui avait été inaugurée lors de la rénovation 2019, qui évoque les jouets des années 50 à nos jours.
À l'ère des nouvelles technologies, les écrans ont pris une place considérable dans le temps de jeu des enfants. Et on le ressent bien dans le musée, puisque les petits visiteurs sont agglutinés devant une console de jeu japonaise mise à disposition par le musée pour conclure la visite. C'est l'occasion de discuter un peu avec eux et leurs parents. Est-ce que vous, ça vous fait un écho particulier en tant que parent?
On essaye de plutôt favoriser tant de jeux traditionnels, on va dire, parce que la télé, les écrans, ils sont rapidement addicts.
Les jeux vidéo, mes parents, ils ne veulent pas trop que je regarde les écrans et j'en regarde déjà beaucoup avec les dessins animés que je regarde.
Et toi, pourquoi tu préfères les jeux vidéo?
Bah, parce que c'est comme des mondes à vivre.
Reportage d'Emma Garbo-Lorenzoni au musée du jouet de Poissy dans les Yvelines. Exposition à découvrir jusqu'au 9 juillet prochain. Dans un instant, l'info, le journal sur RFI. Quant à nous, on se retrouve demain avec le réalisateur et critique de cinéma Thierry Jousse qui publie BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma. Une coédition EPA France Musique et vous m'en direz des nouvelles.
Enrichissez vos